Dans le cadre de l'édition 2021 des Semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et SOS Violence Conjugale 42 organisaient le jeudi 7 octobre, à l'espace Aretha Franklin de Montréno, Saint-Étienne, une journée interprofessionnelle sur le thème « Femmes et précarité, faire face aux effets de la pandémie ». Une occasion pour les participants d'échanger autour de leurs pratiques, d'obtenir des réponses par des pairs à leurs interrogations, d'analyser et de découvrir des dispositifs. C'est le cas pour le parcours de sortie du système prostitutionnel dont a la charge Céline Alexandre de SES Violence Conjugale 42. Un dispositif récent et très spécifique que Radio Ondaine vous invite à découvrir dans ses origines et son fonctionnement après les propos introductifs de Pauline Chassin, directrice de SES Violence Conjugale 42.
Alors, sur la question de la prostitution, peut-être simplement préciser que la France a décidé de devenir abolitionniste et a lancé une loi en 2016 qui avait pour objectif de réduire la prostitution des personnes étrangères qui avaient été victimes d'une traite des êtres humains. Donc on se situe dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la problématique de l'ensemble de la prostitution. Donc très clairement, une prostitution qui serait exercée par une personne française, par exemple, ne rentre pas dans ce dispositif. Et on va même plus loin, puisque du coup, ce qu'il faut dans le cadre de ce dispositif pour le public, c'est justifier du fait d'avoir été une victime de traite. Donc clairement, c'est de l'esclavagisme moderne. Et cette loi, elle a été créée parce qu'en fait, il y a des études qui ont démontré qu'aujourd'hui, en France, la prostitution était essentiellement étrangère. Je crois qu'on nous parlait de 90% de la prostitution, donc essentiellement étrangère, et avec un système de traite organisé. Donc très clairement, il y a un système de traite qui est organisé aujourd'hui, qui part du Nigeria, des pays de l'Est, de la Roumanie. Et ces personnes vont se retrouver dans une forme contrainte de prostitution. Donc, par rapport au discours et aux polémiques qu'il y a eu à l'époque, là on est bien sur des personnes qui ne sont pas volontaires et qui subissent un système avec souvent une dette qu'elles doivent rembourser. Par exemple pour les Nigérianes, on était entre 30 000 et 60 000 euros de dette qu'elles doivent rembourser quand elles arrivent, souvent en Italie, en tout cas en Europe. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel cette loi a été créée. Créée en 2016, une circulaire d'application en 2017, et cette circulaire prévoyait que chaque département en France mette en place une commission pour étudier les éventuelles demandes d'inscription dans ce parcours de sortie du système prostitutionnel. Dans la Loire, on avait en fait, et on a d'ailleurs toujours pas d'associations qui sont spécialisées. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu nos partenaires dans le Rhône, on a tout un tas d'associations, comme l'Amicale du Nid, Cabiria, plusieurs associations avec des travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes en prostitution. Dans la Loire, c'était pas du tout le cas. Mais la particularité de ce dispositif est le fait qu'elles soient toutes victimes d'un système de traite et d'une violence, a permis que l'association SOS Violence Conjugale soit volontaire pour être l'association dite agréée. Donc en 2017, l'association SOS Violence Conjugale fait sa demande pour être agréée auprès de la préfète et cet agrément est validé. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une association dans le département qui est agréée, c'est SOS Violence Conjugale, et on a en gros l'aval des collègues des services de l'État pour instruire une demande d'entrée dans le parcours. Donc cette demande, elle va se faire au sein de notre association. On a eu la volonté de copier un petit peu ce qui était fait pour les violences conjugales et de proposer en gros un petit peu les mêmes réponses. Donc il faut contacter notre association. Et puis je vais donner du coup la parole à Céline Alexandre qui justement, elle, est tous les jours sur le terrain en suivi de ces personnes. On va vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner de manière très concrète. simplement, moi, pour finir dans mon propos introductif, vous dire qu'on est sur une vingtaine de personnes qui ont été concernées depuis le début du dispositif. Donc, bien sûr qu'il y en a plus qui nous ont sollicité, mais pour certaines, on n'a pas pu faire une demande. On vous expliquera pour quelles raisons, quels ont été les critères un peu sélectifs d'entrée. Et donc, pour la vingtaine, on note quand même des résultats qui sont très positifs. Et une commission départementale qui est plutôt facilitante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de refus d'entrer dans ce parcours de sortie du système prostitutionnel. Voilà, pour résumer en quelques minutes la mise en place de ce dispositif, les résultats, et puis donc je donne la parole à Céline pour une approche un peu plus terrain opérationnel.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi ça fait quelques mois que j'ai repris la référence, enfin en tout cas le dossier sortant de prostitution, puisque avant moi c'était Michèle Perrin, notre ancienne directrice qui était exécutante de ce dispositif et qui recevait les personnes et qui instruisait les dossiers préfecture, en tout cas qui montait les dossiers. Alors déjà j'aimerais faire un petit point sur justement le public accueilli à l'association dans le cadre de la sortie de parcours de prostitution. Comme disait Pauline, ce sont donc des femmes étrangères, mais pour nous, actuellement, ce sont des femmes exclusivement arrivées du Nigeria. On a eu une seule femme orientée qui venait des pays de l'Est, mais qui a disparu de nos radars et pour laquelle on n'a pas pu donner suite. Voilà. Donc ces femmes-là, elles ont, on va dire, entre 22 et 35 ans, donc public jeune, hein, de jeunes femmes, qui viennent donc du Nigeria, en particulier du sud du Nigeria, qui sont en fait recrutées, sélectionnées, parce qu'elles sont souvent dans des problématiques de violence intrafamiliale, d'orphelinat, c'est-à-dire des femmes qui sont seules à la rue, ou qui essayent d'éviter un mariage forcé, par exemple, ou qui sont déjà dans un mariage forcé. Ces femmes-là, en fait, elles sont à la merci d'organisations qui s'appellent au Nigeria les CULTS, C-U-L-T-S, qui étaient à la base en fait des organisations étudiantes et qui, au fil des ans, se sont, plongées dans la délinquance, grande délinquance, hein, on est sur la prostitution, sur du trafic de drogue, ils sont aussi utilisés comme mercenaires pour effectuer les basses besognes du gouvernement en partie. Voilà. Et donc ces cultes nigérians qui sont extrêmement, extrêmement violents, qui sont très dangereux. Il faut savoir que par exemple, ces cultes se développent en France, pour l'instant on n'est pas encore trop impacté, mais ça se développe. Il faut savoir que ces organisations en Italie, elles ont pris des places de certains secteurs qu'occupait la mafia. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on est sur une organisation tentaculaire et extrêmement, extrêmement organisée et dangereuse. Il y a quelques mois, j'ai pu avoir une formation de l'association Accès, avec qui on est en partenariat, justement, qui travaille sur la traite des êtres humains et avec qui voilà, on a des formations régulières et qui ont vraiment précisé à quel point ces personnes pouvaient être dangereuses et pour les femmes qu'ils recrutent et qu'ils envoient en Europe et pour les personnes qui pourraient leur venir en aide et les structures qui les accueillent. D'où je vous expliquerai après un peu la culture un peu du secret et nos difficultés des fois à entrer en lien avec ces femmes et à maintenir un accompagnement classique. Voilà. Donc ces femmes donc, sont récupérées, on va dire, par ce qu'ils appellent là-bas des madames, qui sont des proxénètes, qui sont souvent des anciennes, justement, prostituées, qui ont vécu le même parcours. Donc on leur fait miroiter qu'elles vont travailler en Europe, souvent dans un salon de coiffure, souvent dans la vente. Enfin, en tout cas, on leur explique évidemment absolument pas l'objectif final. Il y a autour de ce départ tout un rituel animiste, hein, vaudou, qui les lie par le sang, par des effets personnels et voilà, des cheveux, des choses comme ça, lors d'un rituel qui les lie en fait à ce qu'on appelle le juju. Donc c'est une sorte de promesse en fait qui fait que si une fois arrivées en Europe, elles ne se soumettent pas à l'objectif qui leur a été attribué, non seulement elles ont effectivement une dette financière, puisqu'il va falloir payer le transport du Nigeria jusqu'à l'Italie et ensuite en France, et qu'elles donc devront rembourser à la fois par leur travail et à la fois par le sacrifice de leur vie, hein, si elles ne respectent pas cet engagement qui est à la fois spirituel et financier. Voilà. Donc comme disait Pauline, c'est des dettes hein, qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros et qu'elles devront rembourser bien sûr en se prostituant. Alors le parcours de ces femmes, c'est donc qu'elles quittent le Nigeria via le Niger par des passeurs. Hein, donc les passeurs, c'est souvent la communauté Touareg. Voilà, qui les font passer du Nigeria au Niger, sachant qu'au Niger, on leur fait déjà comprendre que c'est pas forcément la vente ou la coiffure qui les attend. Il y a ce qu'on appelle un peu de... Nous, on appelle ça du dressage, c'est-à-dire qu'elles sont déjà, on va dire, embarquées par camion et ensuite, on les laisse dans une maison où déjà elles subissent des viols, très souvent, de la part des passeurs, de la part voilà, de militaires, etc. Ensuite, elles passent par la Libye, où en Libye, ce sera la même chose. Elles vont bien vite comprendre que voilà, elles sont dans un parcours de traite et que voilà, leur fonction ne va pas être celle expliquée au départ. Et la finalité, souvent, du parcours, c'est l'Italie. Voilà, où, comme je vous disais tout à l'heure, le réseau prostitutionnel nigérian est très impliqué et très présent. Voilà, il y en a certaines qui rejoignent la France parce que de l'Italie à la France, leur proxénète donc travaille en France et leur a dit « non, moi j'ai un salon de coiffure en France, tu vas venir en France ». Donc elles continuent à espérer qu'une fois en France, elles vont effectivement travailler dans un salon de coiffure, mais elles s'aperçoivent que finalement quand elles sont là, on leur dit « on les met souvent, elles sont souvent mises dans un appartement loué par la proxénète ». Avec plusieurs autres Nigérianes, et on leur fait comprendre que voilà que leur idéal de vie en Europe, ça va être la prostitution, et qu'elles vont devoir rembourser cette dette en se prostituant. Voilà. Donc nous, au quotidien, quand on les reçoit, elles sont souvent orientées donc par les services d'aide aux migrants, hein, les structures type Entraide Pierre Valdo, donc la SPADA, etc. Depuis que le dispositif a été mis en place, on a aussi pas mal de bouche à oreille parce qu'elles se connaissent entre elles, hein, plus ou moins, soit parce qu'elles ont vécu ensemble, soit parce qu'elles sont arrivées plus ou moins au même moment. Et puis, on va dire à Saint-Étienne et dans les environs, il n'y a pas une communauté nigériane extrêmement importante, donc elles arrivent vite à se retrouver sur les mêmes lieux, en tout cas. Donc elles nous sont orientées comme ça, soit par d'autres dames qui ont déjà bénéficié du dispositif, soit par des structures. La première étape, donc, c'est la rencontre. Moi, donc, je propose un premier entretien. Souvent, ce sont des femmes qui ont quand même fait une demande d'asile. Donc, soit qui est en cours, soit qui a déjà été rejetée et qui a été rejetée et qui sont en recours. Donc, il y a certaines femmes qui sont hébergées en CADA. Hein, certaines de ces femmes sont hébergées dans des CADA. Et d'autres sont, on ne sait pas trop où, malheureusement. Soit dans des squats, soit dans des appartements qu'elles louent avec d'autres Nigérianes, moyennant l'argent de la prostitution. Mais ça, par contre, c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup, beaucoup de mal à entrer. Enfin, on ne sait pas trop où elles vivent. Quand on leur demande « Vous habitez où ?», elles disent « Avec des copines » ou « Dans un appartement ». Enfin, voilà. Mais elles sont finalement peu à être sur des structures d'accueil type CADA. Voilà. Ou même type SIAO 115, etc. On a très peu. Donc, il faut savoir que ces femmes sont anglophones. Hein. Très peu d'entre elles parlent français, ou alors c'est vraiment quelques mots. Donc, les entretiens se font en anglais. Les questions qui sont posées de manière générale, la première qui est posée, c'est si elles ont fait une demande d'asile. Si oui, je leur demande si elles peuvent me fournir un récit de vie, parce que souvent ça a été fait au niveau de l'OFPRA pour pouvoir attester de leur parcours. Donc je leur demande parce que ça simplifie, ça simplifie beaucoup, beaucoup moi, mon travail, parce que si j'ai déjà un récit de vie, c'est plus simple de se baser sur ce qui a déjà été fait, déjà été écrit, plutôt que de recommencer et de redemander à la personne d'expliquer son histoire. Voilà. Ensuite, je leur demande effectivement leur âge, etc. Si elles ont des enfants. Alors, un certain nombre d'entre elles ont des enfants, mais restées au Nigeria. Très peu ont un enfant quand elles arrivent en France. Et certaines ont des enfants, mais souvent quand elles sont déjà inscrites dans le parcours de sortie de prostitution, elles se mettent en couple ou sont déjà plus ou moins en couple avec un ressortissant nigérian et elles ont des enfants avec lui. Voilà. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu déjà une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, parce qu'à ce moment-là, elles ne peuvent pas prétendre au dispositif de sortie de prostitution. Et la dernière question, et non la moindre, je leur demande si elles se sont prostituées en France. Parce que la prostitution en Italie n'ouvre pas droit au dispositif que nous, on a prévu voilà, dans la loi française. Voilà. Une fois cette... je leur explique aussi comment ça fonctionne, hein, ce qui va se passer. Je vais vous expliquer aussi comment les choses se mettent en place. Donc, elles nous donnent leur récit de vie. Je leur demande si elles ont des documents d'identité. Certaines ont des passeports. Certaines ont le document qu'elles ont fait pour leur demande d'asile, par exemple. Voilà. Je demande si elles ont des enfants, etc. Et ensuite, moi, je compulse tous ces documents. Et j'envoie le dossier à la préfecture. On demande aussi effectivement un justificatif de domicile. Donc soit elles sont déjà domiciliées, par exemple à l'entrée de Pierre Valdo, soit on les domicilie à l'association. Donc ce qui fait qu'ensuite, elles récupèrent tout leur courrier au niveau de l'association, au siège à Bergson. Voilà. Donc on envoie tout ça. Les commissions ont lieu deux fois par an.
J'ai peut-être insisté là-dessus parce que là aussi c'est un dispositif qui est assez déployé dans le département et on a un petit peu peur d'avoir un flux, on va dire, de personnes qui viendraient du Rhône. Donc le justificatif de domicile est vraiment important puisque du coup la commission de la Loire doit étudier les situations qui sont ligériennes. Donc on vérifie que la prostitution a bien eu lieu ici, que la personne habite dans le département. Et finalement, il n'y a pas trop d'autres critères. On ne va pas les vérifier, on ne mène pas une enquête. On ne travaille pas pour les services de police ou de gendarmerie. Mais on sait aussi qu'à partir du moment où elles sont jeunes, nigérianes, arrivées en France, il y a de grandes chances pour qu'elles aient été prises dans ce trafic de traite.
Comme je vous expliquais, on a deux commissions à la préfecture par an. L'objectif pour nous et pour ces femmes, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour de 6 mois. Autorisation qui permet le travail, hein, qui permet d'occuper un emploi, de travailler. Cette autorisation provisoire de séjour, elle est renouvelable jusqu'à 4 fois, soit donc une durée totale de 24 mois. Par contre, pour continuer à pouvoir renouveler cette APS, il faut qu'elles nous apportent régulièrement des preuves de leur insertion. Donc soit par le travail, puisqu'elles sont autorisées à travailler, soit par la formation, donc formation langue française, formation aussi professionnelle, elles s'orientent souvent vers le secteur du nettoyage, etc., parce que ça recrute et que... Ils sont peut-être un peu moins regardants que d'autres. Elles travaillent souvent sur la région lyonnaise. Hein. Elles travaillent beaucoup dans le Rhône, dans des hôtels, dans des hôtels pour travailler dans le ménage, je précise. Une fois que la préfecture a validé cette autorisation provisoire de séjour, elles reviennent vers nous. Donc on leur demande deux choses en priorité. C'est l'inscription à Pôle emploi. Donc elles ne sont pas indemnisées en tant que elles touchent pas de chômage. Par contre, elles sont enregistrées en tant que demandeurs d'emploi et à ce titre, il peut leur être proposé donc des postes ou des formations. La deuxième chose, si c'est pas déjà fait, c'est d'ouvrir un compte bancaire, puisque la troisième étape, pour ma part, c'est de faire une demande auprès de la MSA, puisque c'est la MSA qui est le service payeur de cette allocation. Qui s'appelle l'AFIS, donc c'est l'allocation financière d'insertion sociale, qui leur est allouée quand elles peuvent faire preuve de leur autorisation provisoire de séjour, d'une domiciliation et du document de la préfecture, du courrier qui leur est remis en amont de l'obtention de l'APS, courrier de la préfecture qui valide l'entrée dans le dispositif.
On est sur un montant de 330 euros. Hein.
Pour une femme seule. C'est majoré s'il y a des enfants. Donc c'est Exactement comme l'APS, l'AFIS peut être renouvelé tous les 6 mois. Donc voilà, donc 2 fois par an, on a des grosses semaines où on reçoit, elles viennent toutes nous amener leurs documents, etc. Pour ce qui est du reste, on est quand même très limité parce que nous, notre mission, c'est uniquement, on va dire, même si on fait un peu plus que ça, justement la récolte des données et l'instruction des dossiers en vue de la commission préfecture. Normalement, pour le reste des démarches, qu'elles soient du logement, de tout ce qui est santé, elles relèvent du droit commun. Donc on fait régulièrement des relais avec le conseil départemental, même si je concède aux collègues du département, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, que c'est compliqué, parce que c'est des femmes qui ne sont pas forcément dans le lien, qui sont beaucoup dans la défiance, que ce soit des travailleurs sociaux ou des structures en général. Michel Perrin serait là, elle pourrait en parler. Les premières qui sont entrées dans le dispositif étaient très, très, très fuyantes. C'était très difficile d'avoir un lien avec elles, de connaître un peu leur histoire. C'était quasi impossible. On avait leur récit de vie et point barre. On n'avait pas plus. Aujourd'hui, celles qu'en tout cas, moi, j'accompagne depuis le début, sont beaucoup plus dans le lien. C'est beaucoup des femmes qui ont commencé à apprendre le français, donc s'expriment mieux en français. On a aussi de plus en plus de femmes qui font des enfants. Voilà. Avec des compagnons, soit nigérians, soit, enfin, très souvent nigérians d'ailleurs. Mais voilà. Donc, la plupart, aujourd'hui, on a une file active d'une quinzaine de femmes qui sont soit au début de leur parcours, soit voilà, sortantes, parce que la prochaine commission aura lieu à fin d'année 2021. Donc là, on va être dans le rush des renouvellements. Voilà, on a une quinzaine de femmes en file active qui en sont à différents stades de la procédure. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si elles arrivent à obtenir donc leurs 4 autorisations provisoires de séjour, à l'issue de ces 24 mois, elles ouvrent droit à un titre de séjour d'un an, vie privée, vie familiale. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, la difficulté qu'on observe un petit peu, c'est que les premières ont un peu essuyé les plâtres, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il avait été, on n'avait malheureusement pas anticipé la sortie de ce dispositif. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de femmes qui, du jour au lendemain, se retrouvaient à ne plus toucher l'AFIS, puisqu'elles sortaient du dispositif, à relever uniquement du droit commun. Donc elles étaient toujours plus ou moins domiciliées chez nous, mais bon, nous on leur disait, non, aujourd'hui vous ne relevez plus de l'accompagnement des SOS. Donc on a eu des difficultés, même au niveau de nos partenaires, qui ne comprenaient pas pourquoi, du jour au lendemain, elles se retrouvaient sans argent. Voilà. Et j'avoue que ça a mis à mal un petit peu. Enfin, moi, ça m'a mis à mal de me dire, tu les renvoies presque limite dans la prostitution. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait cette expérience un peu douloureuse. Ça nous a permis de se dire qu'aujourd'hui, il faut, dans les 6 derniers mois, réellement préparer la sortie du dispositif. Faire le lien bien anticiper le lien avec les autres structures qui pourraient les accueillir. Il y a des femmes qui sont hébergées via le 115, quand même quelques-unes. Donc voilà, il y a j'ai une personne par exemple qui aujourd'hui est hébergée, enfin un logement via Habitat et Humanisme, enfin voilà. Donc au niveau du logement, elles nous sollicitent très peu. Très très peu. Elles ont accès, dans le cadre de notre sauce interne, on va dire, au CHRS. Jusqu'à présent, on a eu 3 personnes qui sont passées ou qui sont au CHRS et qui relevaient du dispositif sortie de prostitution.
Peut-être pour compléter, parce que ça a été une des questions tout à l'heure, il y a eu une validation des services de l'État et du SIAO pour ouvrir nos quelques places dédiées aux personnes victimes de violences conjugales à ces victimes qui sont inscrites dans le parcours. Donc là, on n'est pas tout à fait sur la même organisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'inconditionnalité au préalable. Par contre, dès lors qu'elles sont accompagnées par notre association, on leur ouvre aussi l'accès à ces places. Et voilà, on s'est quand même rendu compte qu'on avait peur que ça fasse un petit peu... que ça remplisse un petit peu nos places dédiées, et finalement non, c'est une vraie question par rapport à l'observatoire tout à l'heure et à ce non-recours. C'est-à-dire, où sont ces personnes? Alors, quand elles viennent chez nous, on sait à peu près où elles sont. Mais celles qui ne sont pas repérées par des associations, où sont-elles? On pense qu'on est plutôt sur des marchands de sommeil. Voilà. Donc, ça fait partie des femmes précaires qui sont dans le non-recours au regard de l'hébergement d'urgence. Et ça pose peut-être plus largement la question de la prostitution comme une stratégie, entre guillemets, féminine pour éviter d'être à la rue. Voilà. On peut faire cette hypothèse.
Oui, sachant que quand elles entrent dans le dispositif, enfin, quand on fait le premier dossier, en tout cas la première demande, elles ont comme il y a comme demande de notre part et de la part de la préfecture qu'elles s'engagent par écrit à arrêter la prostitution. Donc ça, effectivement, on est sur du déclaratif. Hein. Elles nous écrivent « I want to stop prostitution », mais après, voilà, on ne sait pas si, effectivement, au vu des ressources qu'elles peuvent percevoir, s'il n'y a pas toujours de la prostitution. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, j'insiste là-dessus, pour que tous les partenaires, on puisse travailler justement sur ces 6 derniers mois qui sont très très importants pour éviter justement que du jour au lendemain elle se retrouve comme quelqu'un qui sortirait de prison sans avoir eu d'accompagnement, moi j'appelle ça sortie sèche, et que derrière on les remet dans une précarité extrême toutes les portes ouvertes pour retomber dans la prostitution. Un détail aussi qui a son importance par rapport au profil de ces femmes. Pour celles, par exemple, qui sont en couple, qui se sont mis en couple à l'arrivée en France, soit avec, c'est dans la majorité des cas avec des ressortissants nigérians également, demandeurs d'asile ou sans papiers, on a remarqué chez certaines des situations de violence conjugale. En particulier 2 ou 3, enfin une avérée, hein, une femme pour qui moi les collègues qui hébergent le couple m'ont sollicité à plusieurs reprises parce qu'ils avaient même plus que des soupçons hein, sur des violences de la part de monsieur sur madame. Voilà. Donc là, il y a aussi la double facette, et parce que ce sont des femmes qui sont extrêmement fragiles, bien sûr. Et ce qui pourrait aussi, si on peut élargir aujourd'hui le dispositif, puisque nous, finalement, SOS, on fait qu'une toute petite partie de ce qui pourrait être fait. Ce qui est d'ailleurs des fois un peu frustrant, parce qu'une fois qu'elles sont sorties, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Quand elles sont dans le dispositif, on est beaucoup sur de l'administratif. Et pour moi, si on avait la possibilité, il y a énormément de choses à faire avec ce public. L'éducation à la sexualité, par exemple. Le travail sur le trauma, quand on a la possibilité de le faire, quand elles arrivent vraiment à livrer des choses. Le travail sur le parcours migratoire, l'accès aux droits, et l'accompagnement administratif, autre. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt les services du département qui s'en occupent. À la fois, c'est très intéressant, parce qu'on sait que, en ce moment, enfin, en tout cas, pour le moment, les démarches aboutissent et ces femmes peuvent être régularisées, donc ce qui est bien. Mais à la fois, il y a cette frustration de dire, et l'après, comment on pourrait aller plus loin avec ces femmes-là? Ne serait-ce aussi que comment leur expliquer leurs droits, aller aussi plus loin sur le logement. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire et à mettre en place et voilà. Donc pour l'instant, on est la petite porte d'entrée qui fait qu'au moins il y a une situation plus régulière. Mais derrière, il y a énormément de problématiques qui font quand même que, comme on parle de précarité, qu'elle reste quand même dans une situation de précarité, alors plus administrative, mais en tout cas sociale, de santé, et voilà.
Merci beaucoup, parce que je crois qu'on a vraiment un éclairage très concret de comment ça se passe au sein de l'association. Et oui, cette frustration, on l'a peut-être pour les autres publics aussi, mais on sait bien que sur toutes ces questions, alors là, de précarité et de violence, il y a un impact qui va être très fort sur toutes les années qui vont suivre, et notamment en termes traumatiques. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les réponses, et ça fait partie des chantiers qu'on travaille aussi sur le département.